Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 162e Comics Weekly, l'émission des reviews comics VO de la semaine. Et cette semaine, au programme du Marvel, de l'Indé et du DC, du classique, avec la sortie d'Infinity et de New Avengers chez Marvel, ainsi que la suite du crossover Battle of the Atom avec Uncanny X-Men. Dans la partie Indé, nous aurons des nouvelles séries qui démarrent chez Image et chez Dark Horse. Et enfin, chez DC, nous aurons la troisième semaine du Villain Month avec la suite de ses numéros consacrés aux vilains. Je suis Steve et vous écoutez le 162e Comics Weekly. Moi ce soir pour présenter tout ça, Mister René Bonny.
Bonsoir les gens.
Et les gens. Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et désolé Bonny de t'avoir amputé sur les jantes.
Ouais, c'est de pas voiture. Grave. Voilà.
C'est pour bien commencer l'émission.
Ouais.
Une bonne vanne bien fraîche. Allez, on démarre avec du Marvel et quelque chose de très très frais puisque c'est Infinity. C'est pas Infinity 3 par lequel nous allons commencer, mais bien le New Avengers 10 qui doit se lire avant, et c'est Bruno qui nous en parle.
Et oui, et c'est mon coup de cœur de la semaine, associé bien sûr à Infinity 3, dont on parlera après. Donc c'est Jonathan Hickman au scénario et Mike Deodato au dessin. Et dans ce numéro, on va s'intéresser en fait à la quête des Illuminati pour retrouver le fils de Thanos. Voilà, donc on avait appris que Thanos avait un fils. Et en fait, Black Bolt révèle à ses comparses que, bah justement, si Thanos est sur Terre, c'est pour ça. Et donc, il lui révèle pas mal d'infos sur qui pourrait être ce fils, où est-ce qu'il pourrait être, mais pour ça, il a besoin de ses potes pour aller le retrouver. Donc, un numéro où on en apprend un petit peu plus aussi sur ce que fait le suppôt de Thanos.
Changer une lettre et ça n'a plus la même signification.
Voilà. Ce qu'avait fait le suppôt de Thanos avec le Docteur Strange, puisque on sait qu'il était dans une posture un petit peu particulière. C'est toujours aussi
désolé.
Beau. C'est toujours aussi beau, le Mike Deodato. Moi, j'adore.
Non mais attendez. Juste, oui. On connaît toujours pas le nom du fils donc de Thanos.
Et non.
Et le pire, c'est qu'on a vraiment déconné ces derniers mois avec un probable fils de Thanos qu'on a appelé Thanos.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais j'espère sérieusement que ce sera pas ça, ce sera impossible.
Le petit Thanos.
C'est ça, exactement.
Encore heureux qu'en anglais, ça ne se prononcerait pas comme ça, mais quoique Thanos existe. Hein, comme...
Ça pourrait être drôle. Donc voilà, c'est un épisode de quête où on voit où pourrait se trouver ce
bien.
Fameux fils.
je sais, je me suis retenu très fort pour pas la faire aussi, celle-ci.
C'est pas une petite quéquette, c'est une grosse quête.
Oh non
mais...
Oh, l'émission commence très mal.
On l'avait dit avec Sam que ce crossover était très sexuel et il y avait plein de connotations, c'est terrible.
C'est vrai que la semaine dernière, Sam était très excité par les postures de Captain Marvel,
ouais,
et de Ex Nihila.
Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, un super numéro où l'intrigue avance pas mal. Il y a un gros cliff à la fin, un cliff dont on reviendra. Bon, on pourra peut-être revenir dessus dans Infinity 3, mais un numéro que je trouve assez indispensable moi personnellement pour apprécier vraiment Infinity à son maximum. Et donc voilà, pour moi c'est un gros bail.
Ouais, dommage qu'il soit sorti la même semaine qu'Infinity, c'est ce qu'on disait juste avant l'émission. Le truc, c'est qu'on a tendance à vouloir aller lire Infinity 3 en premier, et non, il faut bien lire le New Avengers. Bon, on peut faire la gymnastique mentale de recaler ça avant, mais pour éviter de trop se spoiler la fin de l'épisode, il vaut mieux quand même lire New Avengers avant.
Il y a un truc super mal foutu, je trouve, dans les chez Marvel, c'est qu'ils sont vraiment pas intelligents, les gens de chez Marvel, parce qu'ils te mettent l'ordre de lecture à la fin des épisodes. Et pas au début.
Ouais,
ce qui est complètement
après,
crétin.
Après, il y a aussi une petite astuce là, puisque chaque numéro d'Infinity a une couverture d'une couleur particulière. Sur le Infinity 3, on passe à la couleur jaune, alors que le Infinity New Avengers, il est couleur rouge encore comme les précédents. Donc il fallait le lire avant de passer à la couleur jaune.
Faut vraiment que tu fasses gaffe au code couleur. Imaginons que t'es dans ton comic shop, tu prends tes numéros, t'as pas les anciens sous la main.
Ouais, enfin, dans un comic shop, il en reste forcément encore des numéros.
Non, enfin, je veux dire, voilà.
Ils auraient pu mettre partie, je sais pas combien, sur je sais pas combien.
Oui, par exemple. Voilà. Enfin, vraiment un numéro significatif, quoi. Pas un code couleur.
En même temps, comme Steve le disait, il suffit peut-être de lire Infinity pour ceux qui veulent juste lire Infinity, et du coup, au moins, ça laisse la possibilité aux gens juste de se dire, bah, on va lire que Infinity, on a peut-être pas besoin de lire les autres.
Si ça te spoil des éléments de New Avengers, c'est dommage.
Ça te spoil un peu. Moi, je ne l'ai pas lu pour ma part. On en a discuté juste avant l'émission et j'avais compris la majeure partie. C'est vrai qu'il y a quelques éléments qui me manquaient vu la non-lecture de New Avengers, mais c'était volontaire ce mois-ci pour moi de ne lire ni Avengers ni New Avengers. J'avais été tellement déçu le mois dernier d'avoir les pages redites dans Infinity que je voulais voir si je pouvais m'en sortir sans. Il y a quand même quelques éléments qui manquent. Et pour revenir sur ce que tu disais, que c'est dommage qu'ils le mettent à la fin, en même temps, c'est qu'une fois arrivé à la fin de ton comics, ça te permet de savoir où tu dois aller pour lire la suite. Donc, l'un dans l'autre. En même temps, je veux dire, au pire, dans ton comic shop, tu ouvres et tu regardes juste la dernière page sans aller à la dernière page de l'histoire.
Ouais,
et
puis
quoi.
tu te gourres, c'est ton doigt. Tu vois la dernière page du comics et tu fais « Ah, j'ai envie de me suicider !»
Ou tu demandes, sinon, le plus simple, tu demandes au gars du comic shop.
Ouais, bien sûr. Ouais, mais le gars, c'est un crétin. Et il ouvre la dernière page et il te montre tout. Il te fait « Oh, regarde là où ça se termine, et bah tu continues. »
Non, le vendeur, normalement, ne fera pas ça, ou alors il veut vraiment couler sa boutique s'il s'amuse à faire ça. Ah bon. Donc un bail pour toi normal, c'est ton coup de cœur.
Oui.
On va passer au numéro suivant, c'est bien sûr Infinity numéro 3 sur 6. Hein, je vous rappelle que c'est une mini en 6, même si c'est marqué sur la cover, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. C'est scénarisé par Jonathan Hickman avec des dessins de Jérôme Opeña et Dustin Weaver. Et alors cette fois-ci, on va s'intéresser toujours aux Avengers de l'espace, qui sont, rappelons-le, coincés sur une espèce de planète qui s'est fait atomiser. Ils sont dans une situation très peu enviable, et les Builders attaquent une nouvelle stratégie, aller voir les planètes les plus puissantes en leur disant « Bon, on vous laisse une chance, vous vous rendez, et on vous épargne. » Et même les plus puissants vont se poser la question sur savoir ce qu'ils vont faire. On vous dira pas s'ils se rendent ou pas, vous aurez qu'à découvrir ça dans le comic lui-même, mais sachez qu'ils vont voir les plus grosses races, donc les Kree, les Centauriens, voilà, et puis l'autre race,
les Kymélianes,
voilà, bah toutes ces races que Jonathan Hickman avait liées notamment dans son run de Fantastic Four avec les différentes femmes de Black Bolt, le polygame,
le coquin,
voilà. Non, c'est vraiment bien foutu, et surtout les Avengers vont trouver un plan de secours en la personne de Cap, parce que Cap est l'homme qu'il faut aller voir quand on a un problème et qu'on est en infériorité numérique, que tout est sur le point de partir en cacahuète. Et bien Cap a toujours la solution, et là la solution va faire mal aux Builders. Ils ne s'attendaient pas à ça, et ils vont devoir aussi, là encore, changer leur stratégie pour s'adapter à cette résistance qu'ils n'espéraient pas.
Oula, c'était la phrase la plus longue de la Terre. Je vous invite à la réécouter.
Exactement. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle.
Je sais pas.
Je m'aperçois que cela fait une heure que ma phrase dure.
D'ailleurs, je voulais réagir parce que c'était effectivement, comme dirait Bruno, à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est l'attaque avec Cap.
Alors, je vous invite à réécouter cette très longue phrase pour vérifier que je n'ai pas fait de problème de concordance de temps. Notez bien les prépositions aussi, et voir si les principales vont avec les subordonnées.
Voilà, c'est ça.
Putain, tu auras vu des souvenirs.
Ouais, j'ai lu un Becherel cette nuit. C'était ma lecture de chevet, j'avais pas encore reçu mes comics. Bref, je dis n'importe quoi, je suis complètement
explosé. Tu me feras un petit exercice sur l'ORTH, s'il te plaît.
Non, je dois avouer que j'ai passé mon après-midi à vous monter l'énorme Comic City de 3 heures. Je suis dans un état proche du coma. Voilà. Bref, Bruno, qu'as-tu pensé de ce Infinity 3
J'adore Infinity, j'adore ce qui se passe, c'est vraiment du grand spectacle. C'est très beau, hein, toujours, hein, Dustin Weaver et Jérôme Opeña, c'est magnifique. Sachant qu'Opeña fait toujours les scènes dans l'espace et Weaver ceux sur Terre.
Franchement, je suis pas d'accord, je trouve ça absolument moche. J'ai jamais rien vu d'aussi laid, et je me suis crevé les yeux depuis.
Voilà, c'est ça. Non, c'est sublime. Il y a quelques splash pages qui en mettent vraiment plein les yeux. Enfin, la dernière splash, façon un peu cliffhanger, est juste énorme.
Je préfère celle d'avant.
Et celle avec, oui, celle avec l'homme à l'étoile est très belle aussi. Donc, il y a.
L'homme à l'étoile.
Ah, non, enfin, je parlais de la page juste avant celle de la page
Ah
finale, en
oui.
fait. Et
Ouais,
je
non,
trouvais beaucoup
c'est
plus
classe.
puissante,
C'était classe.
visuellement.
C'était classe. C'était classe. Mais donc c'est vraiment super beau. Il y a l'intrigue qui avance bien. Le plan des Inhumains, on voit là où ça va aller. On voit Thanos. On voit ce qui se passe dans l'espace.
Oui, c'est vrai que
On
j'ai pas
est
parlé de Thanos, hein, qui refait une grande apparition et qui décide d'aller demander
chercher
son
son
dû,
dû.
voilà, à Black Bolt.
Et
Bon.
donc oui, vas-y, Benny.
Age of Ultron, c'était quand même mieux.
Non.
Ah oui, ah bah bien sûr.
Oui.
Enfin, je veux
Non, non,
dire,
mais par contre,
on ne peut
question.
surpasser ce crossover.
Non, question. Vu que c'est un crossover quand même galactique, etc. Est-ce que finalement Hickman est au niveau de, allez, Amnett et Lanning, puisque je sais que Steve les adore. Est-ce que
Ouais.
ça vaut un event d'Amnett et Lanning ou quand même pas?
Il est encore trop tôt pour moi pour juger, parce qu'Abnett et Lanning, l'avantage c'était que c'était dans la durée, en fait, et que les événements post-event donnaient encore plus d'ampleur à l'event qu'on venait de lire. Donc c'est très difficile pour moi de juger sur un demi-crossover, et puis c'est pas du tout le même type de narration. Je dois avouer que le retournement de situation de Cap est très jouissif, parce que voilà, il leur en met plein la gueule à ces builders qui se croient surpuissants,
C'est bien amené en plus,
mais.
donc.
En même temps, c'est un peu facile, quoi. C'est la tactique façon super-héros qu'on a vu 50 000 fois. Donc, d'un côté, c'est vachement bien, et en même temps, c'est un peu attendu. Voilà. Donc, c'est pas une réelle surprise la façon dont les choses se déroulent.
Enfin, ça défonce un peu tous les
Ah oui,
derniers
non, non, mais
crossovers, hein, quand même,
ah
qu'on a eu,
bah
hein.
pff, non, mais voilà. Je veux dire, on a eu des events Bendis ou l'event Matt Fraction. Enfin, ça n'existe même pas à côté, quoi. Je crois pas qu'on puisse. Bah voilà, c'est même pas comparable.
Donc, bah voilà, bah un gros bail pour ma part.
Pareil, un bail. On va quand même parler très vite de cet épisode digital qui est disponible aussi cette semaine avec l'achat du numéro 3 d'Infinity. Donc la deuxième et dernière partie de Silver Surfer Infinity, scénarisée par Jason Latour avec Rock et Kim au dessin. Bah une petite histoire qui. J'ai du mal à savoir si ça se passe juste avant le début d'Infinity ou pendant. J'aurais tendance à dire que c'est juste avant. On comprend ça vers la fin. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, ces deux petits épisodes. Ça fait plaisir de voir le Silver Surfer, même si finalement le Silver Surfer n'est pas le personnage principal tant que ça.
Et au fait, est-ce qu'on le voit d'ailleurs le surfeur depuis
Pour
dans
l'instant, non.
Infinity?
Pas du tout.
Pour l'instant, non, mais on comprend qu'il est en train de jouer un rôle, en tout cas, dans Infinity, enfin, pendant que ces événements-là se passent. Moi, ça me plaît. Bon, surtout un petit truc gratuit comme ça. Enfin, j'aime bien.
J'ai pas eu le temps de le lire moi personnellement, mais j'y jetterai un œil après l'émission.
Alors, encore une fois, c'est vrai que le Turbo Média n'est pas des plus excellents. On a vu plus abouti en Turbo Média. Cependant, ça fait le job. Pour moi, ça marche beaucoup mieux que le Batman 66 qu'on avait vu, en tout cas pour les premiers épisodes. Je n'ai pas été voir les autres, donc je ne jugerai pas. Je ne parlerai que des deux premiers.
Ça marche bien, hein. Plus je vois sur les ventes, ça marche pas mal le Batman 66, bizarrement.
Ah oui, non mais oui bien sûr, mais je trouve qu'en termes de, je veux dire, en termes de Turbo Média, je trouve que cela fonctionne mieux que les Batman 66. Maintenant, c'est pas le meilleur Turbo Média qu'on a vu. Attention, si vous vraiment vous voulez découvrir le Turbo Média en prendre plein les yeux, c'est pas avec ça qu'il faudra commencer. Ça peut vous donner un point d'entrée, mais c'est pas ce qu'on a fait de mieux. L'histoire est sympa, quoi. Ça se lit bien, et surtout pour un truc gratuit, ça ne se refuse pas. Et enfin, oui, c'est agréable, quoi. Vraiment, moi, j'ai bien aimé. Et on sent qu'il va y avoir un petit rôle pour le surfeur. On sent que le surfeur a peut-être changé de mentalité. Et on commence peut-être à avoir les prémices de quel pourrait être le rôle du surfeur dans ce All New Marvel Now qu'on nous a teasé. Mais
D'accord, bah c'est
interesting. Ça reste qu'un avis. Je suis pas certain.
à mon avis, sans avoir rien lu, tu sais, le mec qui raconte n'importe quoi, il va remplacer Black Bolt.
Bah non, 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 il va. Enfin, je veux dire, il va devenir le nouvel Ultron. Et ils vont faire Age of Ultron 2.
Ah,
Bien sûr.
l'Ultron d'argent qui surfe.
Donc,
Et
bah, est-ce qu'on peut parler de bail pour ça? Acheter seul, je suis pas sûr que ça vaille le coup. En revanche,
j'ai
gratuit
encore
avec.
mieux, j'ai encore mieux. Le surfeur est au fait le fils de Thanos.
Ça marchera pas. Arrête de chercher, Benny, arrête.
Mais justement, Benny, on va passer à toi. On va voir si tu as autant de vannes sur un crossover que moi j'ai décidé d'arrêter.
Ah
Battle of
merde.
the Atom,
Oui.
Uncanny X-Men numéro 12.
Oui, alors justement, on retrouve donc Brian Michael Bendis au scénario. Et au dessin, c'est qui?
Bacalo.
Non, non, justement. justement. Bah non, attends. Ah, mais si, bah, Chris Bacalo.
Je l'ai mais vu un tout Bacalo à l'heure. Beaucoup moins en forme que d'habitude.
Ouais, c'est pour ça, peut-être que c'est, je sais pas, c'est mieux passé alors. alors, je vais pas vous mentir, c'est un épisode pas terrible.
Tiens, bizarre, ça fait le quatrième du coup.
Je suis pas d'accord, mais.
Ah, moi j'ai préféré les épisodes précédents, donc c'est. Je te déconseille de le lire, Steve, du coup. Mais non, mais c'est un épisode où Bendis fait du dialogue. Voilà, c'est tout le monde qui discute de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, toutes ces équipes qui se rencontrent, etc.
C'est de l'esbrouf, ce crossover. Tout le monde va se faire piéger. En fait, il se sera rien passé à la fin.
Bah, on verra, on verra. Là, de toute façon, il va se passer un truc. Là, ça se voit à la fin, il va se passer un truc. Mais les dialogues de Bendis, je veux dire, il y a vraiment des personnages qui ont un comportement mais ridicule. Je pense notamment à Maria Hill qui montre Hank McCoy sur un écran tout au début de l'histoire et qui fait lui je l'aime pas, lui je l'aime pas. Hein. C'est pas parce qu'il est un mutant, hein, attention, hein, je suis pas raciste, mais lui je l'aime pas. Hein. Tu sais, on a l'impression d'un gamin, enfin d'une gamine
non,
de 12 ans.
T'exagères.
Non mais attends, un adulte ne dit pas. Lui, enfin, tu sais, il ne montre pas
oui,
quelqu'un
elle,
en disant
elle le
lui,
fait,
je l'aime pas.
Elle ça, le c'est... fait sur le ton de l'agacement, enfin, c'est qu'elle en a marre des conneries qu'il fait avec le time stream. De,
non, mais
le
attends,
time stream.
Tu vois c'est quelqu'un.
Un adulte ne fait pas ça, non.
Tu vois quelqu'un agir comme ça, c'est un débile.
Et,
enfin,
et,
je veux dire,
et tu peux,
ça,
tu
ça
peux l'imaginer plutôt en train de dire je déteste ce mec, quoi. Et,
oui, mais non, mais là,
c'est ça qu'elle dit une fois, tu le dis pas quatre fois, quoi.
Non, mais là, c'est vraiment appuyé et puis.
C'est marrant parce qu'elle se moque parce que tout le monde déteste Wolverine. Elle dit non mais Wolverine je le comprends mais par contre McCoy il fait que des conneries avec le time stream en ce moment et ça,
ouais,
ça l'énerve
non,
quoi. Il y a le Shield est obligé a été obligé de créer une agence pour s'occuper des problèmes de time stream. Elle
oui.
en a
ras le cul. Alors parlons des problèmes de time stream, ils viennent quand même de Wolverine hein, plus que de Beast.
C'est vrai.
Mais non Beast a sa part de responsabilité nettement. Mais enfin c'est quand même Wolverine le premier qui déconne hein.
Non, bah de toute façon, tout le monde déconne actuellement chez Marvel avec le time stream et bon, bref.
J'attends qu'on nous ramène Doom parce que lui, avec sa machine, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là?
Mystère.
Ce serait intéressant qu'il apparaisse quelque part, Doom, mais je doute. Je doute énormément. En tout cas, voilà un épisode qui. C'est clair qu'on peut le zapper celui-là, il se passe pas grand chose.
J'ai l'impression d'entendre ça à chaque épisode de ce crossover, c'est incroyable.
Ouais, je sais pas, j'ai lu les deux premiers que j'avais pas détestés hein, malgré tout. Hein. J'avais pas détesté,
t'as,
sinon
t'as
j'aurais
oublié,
pas lu
t'as oublié de préciser, t'as oublié de préciser qu'en fait c'est on a le jeune Cyclope et la jeune Jean Grey qui sont arrivés dans le clan de Cyclope et en fait ils sont en train d'expliquer ce qui va pas. Parce que t'avais pas placé le pitch, mais
c'est vrai qu'il y a
beaucoup de dialogues. Et mais franchement, par rapport au numéro précédent, je trouve que ça avance plus et il y a un bon petit cliff à la fin. Enfin, un petit cliff. Il y a une bonne situation à la fin qui, comme tu dis, amènera sans doute de l'action dans le prochain numéro.
Ah bah là, de toute façon, ça va péter. Forcément.
Bah,
là, on arrive à la phase.
Le prochain sera écrit par Jason Aaron. Normalement, ça va être Wolverine and the X-Men, si je me trompe pas.
Ouais, mais ça ferait bizarre. Enfin, je suis pas sûr qu'on reprenne exactement là où ça s'est arrêté à la fin de cet épisode, parce que c'est pas vraiment des personnages avec lesquels travaille Jason Aaron d'habitude. Alors,
c'est...
à moins qu'on ait une agréable surprise.
Oui, enfin, mais... tu sais, Brian Wood sur son X-Men a travaillé avec des personnages qu'il a pas l'habitude de travailler. Dans
ouais,
cette série.
Et
de toute
voit
façon,
que ça s'est très mal passé, parce que c'était vraiment
façon...
pas terrible.
Non, mais de toute façon, on sait sur quoi ça va porter, notamment le prochain Wolverine and the X-Men. Ce sera sur Magic, puisque Magic, là, on le voit, s'en va. On sait pas trop ce qu'elle va faire et ça suit un petit peu ce qu'on nous avait teasé au début avec Magic. Au début
ouais.
Oh, putain. Ouais, donc un épisode encore que je vais peut-être zapper finalement.
Bah, moi j'ai trouvé plus sympa cet épisode, j'avais détesté le précédent et on peut clairement zapper le précédent et passer directement à celui-là. Là du coup on retrouve les dialogues de Bendis qui du coup sont un peu plus cohérents avec ce qu'on avait lu dans les deux premiers épisodes qui était quand même assez agréable et y a 2-3 scènes sympathiques et 2-3 petites révélations. Voilà, moi j'ai bien aimé sur quel point l'histoire se termine et ça m'a donné envie de lire la suite. Voilà, moi un bon petit check-it.
Moi, j'ai envie de dire sur la suite, cat fight.
Voilà. Ah oui, avec de la boue.
Ouais, peut-être. Et donc, franchement, un petit check it pour ma part.
Bruno?
Moi, un petit check it, un gros check it par contre.
Gros check it. Et voilà, c'est tout pour notre partie Marvel. On va passer maintenant à notre partie indé. Bruno, tu vas commencer avec la sortie d'un projet chez Image qui s'appelle Zero. C'est donc le numéro 1.
Ouais, et c'est scénarisé par Alan Scott et dessiné par Michael Walsh avec des couleurs de Jordi Belair. Donc c'est un nouveau titre chez Image à 3$ qui se fout pas de la gueule du lecteur puisqu'il y a une trentaine de pages de comics sans pub. Il y a même pas, enfin je veux dire, on tourne la page, la couverture, on est déjà dans le comics. Il y a vraiment aucun gâchis de pages.
Mmh. Donc et là, c'est la dernière cool. page, c'est pareil.
Et la dernière page, c'est pareil.
Oh, donc, ils nous ont fait payer moins de pages, plus de fric.
Et donc c'est
non, parce
c'est...
que les comics font 32 pages en général et
là il y a 32 pages de comics,
c'est vraiment 32 remplis quoi.
Ouais. Et donc c'est un sujet assez mature. On suit un personnage qui est un espion, on a l'impression, on sait pas exactement pour qui il travaille. Il s'appelle Zero et ça a l'air d'être un super agent. Et là en fait on suit une de ses missions. D'ailleurs, enfin pour commencer, en fait, on a d'abord une première page où on voit un vieux monsieur qui est sur le point de se faire tuer par un enfant et il dit « Avant que tu me tues, faut que je te raconte un truc. »
Et en fait, c'est pas une excuse.
Il va lui raconter sa première mission, enfin une mission qu'il a fait. Et en fait, chaque numéro va être dessiné par un dessinateur différent et va raconter une mission de ce héros. Et on va revenir en arrière, en fait. Là, ça se passe plutôt vers la fin de sa carrière. Et le numéro prochain, on ira 10 ans avant, je crois. Et après, on ira jusqu'à sa jeunesse.
Oui, tu n'as pas précisé quand même que cette première scène où il est vieux se passe en 2038 et la scène que l'on voit dans cet épisode se
2018.
Passe en 2018.
Ouais, il y a quand même 20 ans avant. Ouais.
On est dans le futur, quoi.
Ouais, et on est dans le futur, effectivement. On suit donc un agent qui est envoyé à Israël pour aller récupérer une technologie que le Hamas a mis au point, et donc il arrive en plein milieu d'un conflit. Et en fait, c'est surtout dans ce numéro, on essaye de voir comment il va se dépatouiller parce qu'il est vraiment pas en position de force. Et bah voilà. Après, c'est vraiment de l'action. Plutôt bien mise en scène, moi j'ai trouvé. Graphiquement, c'est plutôt joli. On découvre quelques personnages qu'on sera amené à rencontrer à nouveau, comme ces handlers, enfin les personnes qui sont en train de vérifier qu'il fait bien sa mission, qui ont l'air un petit peu bizarres. Et voilà. Enfin, c'est vraiment, c'est presque un one shot, une petite histoire qui présente le perso. Et je me suis bien laissé bercer par cette histoire. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Steve.
Bah, moi, ce que j'ai aimé, une des premières choses que j'ai aimé, c'est qu'on utilise des véritables factions qui existent. On pourrait vraiment, même si c'est légèrement dans le futur, que voilà, il y a des technologies assez bizarres qui rendent les gens presque surhumains, on a quand même le Hamas, les forces israéliennes en présence, on a les terroristes, et ce sont que des groupes existants actuellement, ce qui fait que on peut placer le côté géopolitique, même si c'est dans le futur, on peut le placer à notre échelle et se rendre compte à peu près des implications qu'il y a. Et ça rend le truc vraiment réaliste et je vais pas dire que c'est novateur parce que ça a déjà été fait, mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les comics actuels.
Non bah ça manque pas moi, parce que là je sais déjà que je le lirai pas.
Ah et oui c'est, non mais attends, ce qui est bien c'est qu'il
rentre dedans quand même.
Il y a ni prise de parti ni je mets un camp plus en avant qu'un autre.
Ouais mais enfin c'est le simple fait que déjà dans la vraie vie ça me saoule d'en entendre parler. Je veux dire, j'en ai ras le cul. Et donc, si c'est pour ouvrir un comics et d'entendre parler des mêmes choses que dans la vraie vie...
Ça reste quand même beaucoup d'action. Hein. Il y a beaucoup d'action.
Non, c'est beaucoup d'action. C'est pas du tout racoleur. Et c'est ça aussi qui est très bien.
Ouais. C'est le contexte
ça...
qui est
oui, voilà.
Qui
c'est
est
pour ça que je dis que c'est un plus.
Intéressant.
On est loin de la fameuse politique de comptoir dont je parle très souvent dans les comics Marvel, où on essaye de faire un petit peu de politique et de social, mais façon de ce que tu entends dans le PMU. Là, pas du tout. Il n'y a pas de prise de parti. À la rigueur, ça te permet, toi, en tant que lecteur, si tu connais un petit peu la géopolitique de ces milieux-là, bah, ça te permet de comprendre un peu mieux, mais ce n'est pas absolument nécessaire pour comprendre le récit.
Oui, c'est bien sûr, non, mais moi, c'est juste le fait d'entendre parler de ça qui me saoule déjà, quoi. Enfin, voilà.
Bon, si, attends, je vais te dire un truc qui va peut-être t'intéresser. On voit une chatte et on voit une bite.
Ouais, voilà. Alors ça, par contre, moi, c'est vraiment les deux pages.
Ça m'intéresse encore moins, tu vois.
C'est vraiment les deux pages qui m'ont gonflé parce que ça sort de nulle part. Enfin, je veux dire, la scène de sexe sur une page, peu importe. Mais la scène après, on les voit à poil. C'est encore une fois, c'est trop souvent en fait le syndrome que je trouve dans ces parutions Image ou autres parutions indé. C'est pourquoi on le fait. Bah parce qu'on peut.
Parce
et
qu'on
la seule
peut.
Justification, c'est parce qu'on peut. C'est trop naze comme justification. Justifiez-le vraiment dans l'histoire. Ça n'apporte rien à l'histoire de voir la bite et la chatte, sinon essayez de faire parler du comique. Ouais. C'est dommage. C'est dommage.
C'est vrai. C'est pas le point fort du comics. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes, comme la narration que j'ai trouvée bonne, quoi. Et puis.
Je m'en fous, je plaisante. Voilà, si encore ça avait une véritable utilité dans l'histoire et que ça serait justifié, ça me dérangerait pas. Mais là, c'est juste gratuit et c'est ça qui me gêne. Ce côté de on le fait pourquoi ? Parce qu'on peut. C'est trop naze comme justification. Faut vraiment essayer de trouver autre chose. Mais sinon, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. J'ai été pris dans le truc. Je l'ai lu d'une traite. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur que ça me fasse chier. Surtout les premières pages, je me suis dit, oh là là, conflit armé, machin. Et finalement, ce côté, je ne prends pas parti pour personne, à part le personnage principal qui est d'une faction qui n'existe pas, ou en tout cas, on ne sait pas laquelle. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit les forces en présence et voilà, c'est comme ça, et après, toi-même, en tant que lecteur, tu peux prendre parti si tu te ranges plutôt du côté Hamas ou pas, en fait.
Ouais, et puis du coup, ce personnage est zéro, et on a envie d'en savoir plus, quand même, sur lui, à la fin de l'épisode.
Ouais. Puis cette situation de départ, avec ce gamin qui ressemble étrangement à quelqu'un que l'on voit dans le comics, je trouve.
Ah, tiens, j'ai pas fait attention à ça, mais...
La scène de l'écraser, enfin, ça te dira D'accord. quelque chose, toi, ouais, qui l'as lu, et j'évite de trop spoiler pour ceux qui...
L'écraser de pommes de terre, bien entendu, servi avec...
Tout à fait.
Je trouve un air de ressemblance, après, ça vient peut-être du dessin, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais... En tout cas, non, un comic que j'ai trouvé vraiment mature dans son approche, et ça, c'est plaisant, voilà.
Moi aussi. Pour moi, c'est un bail, et puis en plus, on a pas mal de comics pour 3€, et... Moi, rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup.
Ouais, c'est un bail pour tester. Voilà, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Si vraiment ça vous branche, bah justement, donnez sa chance au produit et vous aurez peut-être une très bonne surprise. On va continuer avec un projet maintenant chez Dark Horse. Ça, c'est un numéro 1. C'est une mini en 5 épisodes. Ça s'appelle Kiss Me, Satan. C'est scénarisé par Victor Gichler et dessiné par Juan Ferreira. Alors Gichler ne va pas faire du vampire cette fois-ci, mais du loup-garou.
Oh bah merde, tu sais, je m'attendais à un truc totalement différent. Oui, d'accord.
Et en fait, on part du principe que la ville de la Nouvelle-Orléans est contrôlée en secret par les loups-garous.
C'est marrant que tu dis ça, parce qu'il se fout quand même de la gueule du monde, parce qu'au début il dit on va peut-être pas parler de vampires, donc ça c'est marrant, c'était un petit clin d'œil justement pour tous les gens qu'on en marre qui parlent tout le temps des vampires. Ouais. C'était assez bien vu, j'ai trouvé ça au début.
Mais en dehors des X-Men, il en a parlé où finalement?
Bah, il avait fait, son lancement, avec Death of Dracula ou truc comme ça. Et puis bah, le vampire en ce moment est présent partout, quoi.
Mmh. Oui, d'accord, oui, je vois, oui, double clin d'œil, quoi, ok.
Alors, on va découvrir un espèce de personnage principal assez. Presque antipathique, enfin, on comprend pas trop ce qu'il est, on sait pas trop ce qui lui arrive, en tout cas tout ce qu'on voit c'est qu'il est pourchassé par des démons qui essaient de le flinguer, et que ce monsieur est quand même très fort, et qu'il a aussi une amulette qui lui évite de se faire tirer dessus, donc ça c'est quand même vraiment la classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va apprendre que ce monsieur est au service de forces supérieures, et notamment du côté du ciel, d'où le fait que les démons lui tirent dessus. Et on va comprendre peu à peu les enjeux qu'il y a à la Nouvelle-Orléans avec les loups-garous qui dirigent la ville en secret, et notamment ce personnage qui attend un enfant, et cet enfant ne porte pas la marque du loup-garou. Et donc ça remet en cause tout le pouvoir qu'il a accumulé, ne pouvant plus rester à la tête de la meute. Voilà, grosso modo, je vais essayer de pas trop en dévoiler, pour laisser les surprises. Moi j'ai trouvé ça vachement bon, vachement frais, il y a un côté... Ce personnage que l'on va suivre, qui s'appelle Barnabas Black, le mec est légèrement antipathique, mais en même temps...
Moi, ça me fait penser à John Constantine, la description que t'en fais. Le côté antipathique, chasseur de démons.
Mais, ouais, enfin, c'est un peu trop juste pour juger, parce que finalement, on le voit pas beaucoup sur le numéro. Enfin, Bruno, tu peux confirmer, hein, tu l'as lu aussi.
Mmh. Oui, on le voit pas vraiment. C'est vraiment centré plus sur les loups-garous et sur justement ce fait que le personnage va avoir un enfant qui sera pas un loup-garou. Et en fait, ça, il l'a appris via une sorcière, en fait, qui est capable de voir l'avenir.
Et, avec son œil bizarre.
Voilà, donc il développe toute une mythologie autour des personnages un peu mystiques, avec des sorcières, des loups-garous, des vampires, des démons, des anges. Donc c'est assez riche.
Ah ouais, complètement, ouais.
Et non, c'est intéressant, et graphiquement, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, moi j'ai bien aimé. Il y a un petit côté au niveau de la colo aussi qui est très agréable.
Mais... Graphiquement, c'est vraiment joli. Il y a juste un truc que je trouve totalement, mais alors totalement inadmissible. Il y a quelques pages où on voit les traits de crayon.
Ah.
Les traits de crayon de papier qui n'ont pas été effacés. Alors, je sais pas si c'est... parce que l'artiste s'encre lui-même. Je sais pas si c'est un problème que lui a laissé passer ou est-ce le coloriste qui a laissé passer ça, mais je trouve ça absolument pas professionnel. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment dérangé d'avoir tous ces traits au crayon de papier, les traits, les guidelines, quoi. Les roughs. Ah non, c'est... Je trouve que c'est, du coup, c'est un gros manque de finition.
Ouais, ça donne un petit style particulier, moi, je trouve.
Ça pourrait être un style, mais le problème, c'est que c'est pas sur toutes les pages. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que ce sont des erreurs. Et non pas, justement, du style.
On va voir si sur le second, sur le prochain, ça fera pareil. Mais...
C'est notamment énormément visible sur la page où il y a l'ange.
D'accord.
Il y en a partout.
Ouais,
au début, j'ai cru à un défaut. Et
c'est
en
vrai,
fait, non.
C'est vrai, il y a des petites scènes où on se dit il aurait pu faire un effort.
Mais oui, là, elle se voit beaucoup. Et moi, ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment très laid, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir un produit complètement fini. C'est vraiment la seule critique que j'ai sur cet épisode. Donc ça reste quand même une petite critique toute légère.
Oui, parce que ça arrive qu'il y ait des erreurs dans les dessins.
Oui, bah c'est sûr. Mais moi je sais pas, ça m'a plu, j'ai vraiment envie d'en savoir plus.
Ouais, c'est une petite mini
épisodes.
En plus, ouais. Voilà, c'est ça.
Bah quoique, si ça marche bien, qui sait, on va peut-être en avoir d'autres. Avec Dark Horse, ça arrive très souvent que ça commence par une mini, puis en fait c'est une suite de mini. Mais là, franchement, très sympathique, il y a vraiment énormément de potentiel, ça peut partir un peu partout. J'ai envie d'en savoir un peu plus aussi sur comment tu fais pour avoir un œil aussi moisi. Parce que d'avoir de la moisissure à ce point dans l'œil, c'est quand même crade.
Là, tu te fous du roquefort dans la gueule.
Mais c'est un petit peu l'équivalent de Demen, mais côté loup-garou. Voilà.
Ouais,
c'était
aussi
très sympa.
C'est
et,
vrai, ouais.
Donc voilà. À essayer, qui se mise à
Bah pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, honnêtement. Bon, j'ai pas lu énormément de choses aussi cette semaine par manque de temps, mais ça m'a vraiment plu. Il y a de tout et on sent que ça a l'air, en tout cas, bien maîtrisé dès le premier épisode. On verra si la suite nous donne raison ou pas.
Il y a du poil aussi.
Voilà.
Et
moi,
poil,
c'est un bail.
Et il y a de la meuf quasi à poil. Mais ça reste très soft.
Surtout si c'est une loup-garou.
Enfin, Bruno doit voir de qui je parle, hein, les espèces
sorcières.
De filles, les filles qui accompagnent la sorcière, qui sont quand même pour certaines très court vêtues.
Elles sont bonasses. Donc c'est un bail pour moi.
C'est tellement classe. C'est un. J'ai pas compris. Un bail.
Un bail.
Passons à la suite. C'est Mr. Onebunny qui va nous parler du quatrième épisode de X-Files Season 10.
Ouais. Alors, toujours donc au scénario, Joe Harris, principalement, et Chris Carter qui le supervise. Les dessins sont de Michael Walsh et les couleurs de Jordi Belair. Alors, un épisode assez rapide à lire, hein, franchement, c'est parce que c'est surtout un épisode d'action. Scully est toujours poursuivi par ses mystérieux acolytes. Mulder essaye de la retrouver. Voilà, en gros, c'est vraiment le thème de cet épisode, une espèce de course-poursuite et quelques petites révélations, mais pas grand-chose non plus. On se quitte sur un gros cliff à la fin. Enfin, en tout cas, un cliff très X-Falien je sais pas. Enfin, c'est un truc.
Oui, non, parce que, enfin, tu t'attends à un truc, tu te dis, oh non, c'est trop gros. Et puis, en fait, ça te retourne et voilà. Enfin, j'ai aimé le petit côté piège.
Ouais. Non, mais enfin bon, on imagine même que si c'est ça, ils trouveront une solution pour s'en sortir. On a déjà vu pire situation dans X-Files.
Ouais, mais ce serait couillu par contre. Si c'était vraiment ça, ce serait sacrément couillu.
Oui, ce serait couillu, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Je te rappelle que personnes ont des pouvoirs qui peuvent régler la situation
très vite.
Mais oui, ça causerait une petite tension, on va dire. Entre Mulder et
franchement, démarrer la saison 10 comme ça, moi je trouve que ce serait vraiment très osé.
Ouais. Donc non, c'est toujours très bon. C'est toujours un petit plaisir qui est très fugace parce que
ça va très vite à lire.
Ça va très vite, ouais. Ça va quand même très vite à lire. On aimerait en avoir un peu plus, mais bon, en même temps, ça reste très 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 bon et pour une série adaptée, pour une série télé adaptée en comics, il est rare que ce soit d'un niveau comme celui-là. C'est vraiment, à la hauteur de ce qu'aurait pu être la saison 10 à la télé.
De toute façon, si vous avez raté les premiers épisodes, je vous encourage vivement à la lecture du TP. Vous aurez vraiment cette sensation d'avoir un épisode, enfin en tout cas si le tout va dépendre comment s'arrête l'arc, puisque l'arc est en 5 parties. Mais si c'est bien respecté, vous aurez vraiment la sensation d'avoir un épisode télé d'une seule traite. Et je pense que la lecture en TP pourrait être pas mal aussi.
Ouais, tout à fait.
Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Lisez-le pour vraiment tout comprendre. On va pas trop en révéler parce que sinon ce serait vraiment du spoil.
Ouais.
Et comme on a dit, ça va quand même relativement vite. Donc un bail pour toi ?
Un bail, voilà, pour tous les fans d'X-Files, évidemment, il faut quand même avoir vu la série pour lire et s'intéresser à ça. Ouais.
Background de X-Files nécessaire vraiment pour comprendre tous les personnages que l'on voit. Pareil pour moi, et je vais terminer sur une petite blague en disant Scully Mulder, c'est une carte.
Scully Mulder, c'est une carte ?
Oui, Scully Mulder est une carte.
Oh, putain.
Voilà. Bref, passons à un autre projet Dark Horse qui sort cette semaine. Ça s'appelle Buzzkill Bruno, vite, sors-moi cette merde.
C'est scénarisé par Donny Cates et Mark Resnicek, pardon. Et c'est dessiné par Jeff Shaw. Des dessins plutôt bons, un petit peu cartoony, un peu anguleux. Là, par contre, Steve, il y a énormément de petits coups de crayon et tout, mais c'est ancré, quoi. Donc, il y a un style très dynamique qui du coup là, ça s'adapte bien à l'histoire.
Si c'est volontaire, c'est pas gênant, comme je dis. Quand tu vois que c'est vraiment appuyé sur une seule page, c'est là que tu te rends compte que c'est une erreur.
Tout à fait. Alors donc Buzzkill, de quoi ça parle? La couverture nous dit pas mal de choses. On voit un super-héros avec derrière des buildings qui sont en fait des bouteilles d'alcool, et il a une bouteille d'alcool dans les mains. On suit un personnage qui en fait est un super-héros qui développe ses pouvoirs uniquement quand il a bu et quand il s'est drogué en fait. Et donc le problème, c'est que souvent il se rappelle plus de ce qu'il fait après. Et donc il a des petits problèmes, et du coup il va voir les alcooliques anonymes. Mais bon, il essaye de se confier, et c'est l'occasion justement de pouvoir un peu présenter comment il a eu ses pouvoirs, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est dans un état aussi mal, qu'est-ce qu'il se reproche. On apprend pas mal de choses donc sur le personnage. Et en fait, c'est une mini-série qui sera en 4, et je vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, le pitch, c'est un super-héros qui a ses pouvoirs comme ça de façon très incongrue, qui s'en veut parce que quand il se réveille, souvent il y a tout qui est détruit autour de lui, mais c'est pas ce qui s'est passé.
C'est plus que de l'autodestruction à ce niveau-là, finalement.
Ouais. Et en fait, il a énormément d'ennemis, et le fait qu'il veuille peut-être arrêter de boire, ça va peut-être donner envie à ses ennemis d'enfin prendre leur revanche. Une galerie d'ennemis qui a l'air assez intéressante. Donc voilà, c'est un numéro introductif. S'il n'y aura que 4 numéros, ça me fait un petit peu peur, parce que le premier numéro, au final, on n'a pas énormément d'action. Mais
encore une fois,
c'est intéressant.
On est chez Dark Horse, hein.
Voilà, c'est chez Dark Horse, comme tu dis, il y aura peut-être des suites. Et c'est graphiquement intéressant, scénaristiquement plutôt intéressant également. J'irai voir la suite, un petit check-it.
Et pour ceux comme moi qui aiment beaucoup le monsieur, sur la cover est quand même marqué une citation de Mark Waid qui dit « Mon Dieu, j'aurais aimé avoir pensé à ça ».
Voilà.
Ce qui est encourageant, je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est encourageant.
Bon, ce petit argument marketing, on sait très bien, ça n'engage que ceux qui y croient. Mais bon, quand même. On va passer maintenant à notre partie d'essai. On va commencer par Flash numéro 23.3. C'est Rogues qui prend Flash pour ce numéro. Enfin, ce sont les Rogues plutôt, puisqu'ils sont plusieurs. Le scénario est de Brian Buccellato avec des dessins de Patrick Zircher. Alors, ça va revenir sur les Rogues. C'est bien précisé dès le départ que la première scène que l'on voit, et qui sera aussi la dernière scène du comic, se passe avant les événements de Grodd, qui est sorti il y a 2 semaines. C'est le Flash 23.1, puisqu'on va voir les Rogues aller libérer Trickster, tout simplement. Et on va revenir un petit peu en arrière et comprendre pourquoi Captain Cold a récupéré la direction des Rogues et ce qui les a amenés à aller libérer Trickster, et ce qui les a amenés à aller voir la Crime Society. Et donc les événements rejoignent un petit peu les événements de Forever Evil. C'est très sympa, franchement, ça se lit très bien. C'est cependant un peu convenu, parce qu'on n'apprend pas grand chose, je trouve. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout en fait la dernière page, puisque ça va nous ça, en fait, avec cette dernière page, on comprend, puisque c'est ce qui nous avait été teasé, pourquoi les Rogues ne vont pas forcément être d'accord avec les méthodes du Crime Syndicate et vont faire un petit peu bande à part. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On nous développe un petit peu la psychologie de chacun des personnages, mais ça va presque trop vite. C'est pour ça que je dis que c'est un peu attendu. Ça va trop vite. Les revirements de situation et les revirements de mentalité de certains personnages sont trop rapides pour être vraiment poignants. Là, c'est d'un côté, je suis pas d'accord. La page d'après, bon, finalement, je me range à votre avis. Ça va trop vite, quoi. Bon, il y a que 20 pages, de toute façon, c'est aussi le problème de cet exercice-là. En tout cas, ça reste quand même sympa. Je vais dire que c'est un check-it pour ma part. Et on va terminer en parlant quand même, encore une fois, de ce channel New 52, qui, donc, après 3 semaines de nous avoir foutu les covers des numéros du Villain Mons, hein, donc on nous les répétait 3 semaines d'affilée, comme si on n'avait pas compris la première fois, et bien là, cette fois-ci, on nous répète un truc qui était paru il y a 1 mois et demi. Planche pour planche.
Donc, ils sont en pas fait chier.
Non, mais voilà, DC se fout clairement de notre gueule et nous vole de 2 pages de comics chaque semaine.
Voilà. Oh bah, ils estiment que c'est des pages bonus.
Oui, mais c'est imprimé et c'est compté dans le prix. On pourra avoir 2 pages d'autre chose. Honnêtement, à ce niveau-là, je préférerais avoir 2 pages de pub supplémentaires. Ce serait plus agréable à l'œil que ça. Donc moi ça m'emmerde, je veux vraiment qu'ils arrêtent ça ou alors qu'ils reprennent quelque chose à faire quelque chose de novateur, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous refont planche pour planche la même chose. Ça devient fatigant, j'ai pas envie d'avoir 2 pages qui soient toujours les mêmes chaque semaine. Pour ça que je dis que je préférais des pubs, parce qu'au moins elles changent de semaine en semaine. Voilà. Donc bon, pour ce Flash 23.3, en tout cas, Rogues, c'est un check-it. On va passer à la suite, Bruno, un numéro qui aurait pu être ton coup de cœur de la semaine, hein, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. C'est le Justice League Dark numéro 23.2. En même temps, je vous l'avais dit d'avance, il y a de ça plusieurs mois, quand on avait su qu'il l'avait écrit.
Alors, donc c'est sur Eclipso et c'est écrit par Dan Didio avec des dessins de Philippe Tan. Donc on va revenir sur le personnage d'Eclipso, un personnage qu'on avait pu croiser dans quelques numéros de Team Seven, Catwoman et de Demon Knights. Numéro
Eclipso New 52, quoi, qui n'a pas la grandeur et le charisme de l'ancien.
Un numéro
ils l'ont tous perdu, hein, leur grandeur et leur charisme un petit peu.
Ouais, c'est vrai.
Un numéro très chiant, très joli. Philippe Tan fait de belles planches. On a droit à des belles splash pages avec Eclipso. Mais alors, le comics, il se lit en 2 minutes. On n'apprend rien. On va juste découvrir quelle va être la nouvelle identité d'Eclipso à l'époque actuelle. Donc, ça sera le personnage de Gordon Jacobs, qui est un ancien scientifique qui travaillait sur l'énergie solaire. C'est chiant. Voilà. Bah voilà.
Donc, comme par hasard, un personnage qui travaille sur l'énergie solaire. Comme par hasard.
Par hasard. Voilà, c'est beau, mais c'est inintéressant, et pour moi, c'est un gros pass. Voilà, très jolie couverture, par contre.
Quand je dis que Dan Didio n'est pas un scénariste...
Ah bah là, c'est clair.
Ah, il le
là,
montre
je
à chaque
peux
fois
être d'accord
plus,
avec
quoi.
Toi.
Ouais. Il le montre chaque fois un petit peu plus, donc voilà. Donc on va passer à la suite directement, on va pas perdre de temps là-dessus. C'est le Superman 23.3, Mr. René Bunny.
Oui, alors justement, un Superman de 23.3 scénarisé par Scott Lobdell et avec des dessins de Dan Jurgens et au fait des finitions par Ray McCarthy. C'est sur le personnage de Hell qu'on a découvert donc dans le crossover Hell on Earth récemment. Mm-hmm. Et au début, clairement, je me suis dit oulala, c'est très verbeux, est-ce qu'il va se passer quelque chose, parce que au fait, on voit ce personnage de Hell dans un caisson qui le maintient en vie, et puis au fait, il est revenu dans le temps, donc au fait, sur Krypton, et Jor-El étudie donc le corps de Hell, quoi. Et bon, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'on allait pouvoir nous raconter là-dessus, et c'était très long à démarrer. Et au fait, d'un seul coup, ça prend une direction qui s'avère très intéressante. J'ai pratiquement envie de dire ce qui se passe, mais bon, disons que elle prend conscience de sa vraie nature en étant dans le passé. Voit un petit peu quelles sont vraiment ses origines, parce qu'il se prenait un petit peu pour le sauveur de Krypton et celui qui allait régler la situation, et du coup il prend une décision et qui pourrait bien changer toute la timeline, ou en tout cas avoir des grosses répercussions.
Je pensais pas à ça, par contre. Ça me fait peur.
Oui, mais en tout cas c'est très couillu ce qu'il fait. Et la fin de l'épisode, donc on nous dit ne ratez pas Action Comics Annual numéro 2. Donc en fait, c'est en plus un épisode qui annonce quelque chose. C'est pas juste un épisode centré autour d'un super vilain.
Le fameux crossover du mois d'octobre.
Voilà, c'est vraiment pas un truc centré autour d'un super vilain comme ça pour rien, pour la blague accessoire. C'est vraiment un truc qui rentre dans ce qui va se passer dans les séries Superman prochainement. Et franchement, ce personnage devient très intéressant. Par ses actions, là, on se dit oula. Voilà, c'est vraiment un ennemi sur lequel il va falloir compter. Donc,
j'ai l'impression quand même que ceux dont on a dit le plus de bien hein, pour le moment de ces numéros du Villain Months, c'est quand même ceux qui annonçaient quelque chose pour la suite.
Ouais.
Qui préparaient les intrigues à venir.
Oui, qui rentraient vraiment dans les séries en question, quoi.
Enfin, c'est qu'un constat, et même si on n'a pas tout lu, je veux dire, de celles qu'on a chroniquées, en tout cas, j'ai l'impression que les meilleures sont celles qui lancent vraiment quelque chose pour la suite, qui démarrent un run d'un auteur ou quelque chose comme ça, quoi.
Enfin, voilà, donc pour moi, c'est vraiment un épisode, un bon épisode, quoi. Un petit bail.
D'accord. Eh bien, on va continuer avec toi, Bruno, qui va nous parler du JLA numéro 7.3, Justice League of America, bien sûr.
Oui, et qui va nous parler d'un des méchants les plus charismatiques de chez DC, puisque je vais vous parler de Shadow Thief. Shadow Thief, donc c'est son premier numéro. donc c'est écrit par Tom DeFalco et c'est dessiné par Chad Hardin.
Il y a des revenants, putain, il y a des revenants là.
Voilà, et donc ils vont nous parler de ce personnage qui a des pouvoirs assez proches, enfin... pas comme Eclipso, mais c'est un personnage qui maîtrise aussi les ombres et la lumière, qui peut comme Magic, se utiliser l'ombre pour se téléporter dans un monde des limbes et réapparaître là où elle veut. Ce personnage, en fait, c'est une agent qui travaille pour le Mossad.
On est vraiment dans la géopolitique ce soir.
Ouais, c'est ça. C'est un personnage qu'on a déjà pu croiser, il me semble, dans les pages de Hawkman, donc ce grand comics qui s'est arrêté il n'y a pas très longtemps.
Et cette série que tout le monde a suivie, hein, au même titre que d'autres séries comme Suicide Squad.
Non, Suicide Squad, c'est trop bien. Alors ça, je te parlais pas.
Non mais je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est une série que personne ne lit en fait.
Il y a 2-3 personnes qui lisent.
Mais en tout cas,
plus que Hawkman. donc ce titre, c'est juste pas très intéressant. C'est pas nul, c'est plutôt bien écrit par Tom DeFalco. C'est plutôt joli, mais le personnage est pas très intéressant et on voit pas trop où ça va nous mener. Il y a pas, en plus ça nous laisse pas sur un cliff sur qu'est-ce qui pourrait se passer avec elle. Est-ce qu'elle va être une menace pour l'histoire, enfin pour un titre de Justice League of America. Non, voilà, c'est juste qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, c'est chiant. Donc pour moi c'est un autre passe hein, pour cette semaine. À regarder quand même pour les dessins, il y a des petites choses sympas au niveau dessin. Franchement c'est au niveau des dessins c'est cool. Voilà.
Eh bien tu vas continuer avec Teen Titans 23.2 en espérant que celui-ci soit meilleur.
Alors Teen Titans 23.2 sur Deathstroke, on va en apprendre un petit peu plus sur le fameux Deathstroke.
Il y a des chances que ce soit meilleur donc.
Il y a des chances que ce soit meilleur, effectivement, c'était même plutôt sympathique. Je recherche les crédits sur la page, dans le comic, je ne les trouve plus. Ah oui, voilà. Donc c'est écrit par Corey May, Duma Wenchu, voilà, donc deux écrivains que je ne connais pas.
Donc les gens qui avaient terminé la série Deathstroke, hein, rappelons que Deathstroke, pour ceux qui l'avaient oublié, avait eu le droit à sa série régulière dans le New 52 de 20 épisodes.
Exactement. Ils auraient pu rappeler Rob Liefeld aussi. Mais
et c'est pour ça que je l'ai pas lu cet épisode. Au début, je me suis dit Deathstroke, pourquoi pas. Après, j'ai regardé le crédit, je me suis dit oh non, on va quand même pas déconner.
Mais c'était Justin Jordan hein, qui terminait la série.
Oui, c'est vrai, et c'était plutôt pas mal le dernier arc. Donc au dessin, on a Morita, Angel Unzueta et Robson Rocha pour différentes parties de la vie de Deathstroke.
Il y en a deux que je connais qui sont bons, le troisième je le connais pas donc.
Les deux qui sont bons sont toujours aussi bons, le troisième c'est pas terrible.
C'est un moment que j'ai pas vu ces planches quand même.
Et le parti dans le présent sont pas très jolis. Par contre, c'est cool en fait, ça fait job, ça explique d'où il vient. Ce qu'il faisait avant Team 7, comment il a rencontré Deathblow, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours à se tirer dans les pattes l'un l'autre, qu'est-ce qui s'est passé avec son premier enfant et son premier mariage, qu'est-ce qui s'est passé avec son deuxième mariage, est-ce que sa fille c'est bien les biens roses qu'on voit dans les Teen Titans. Enfin, on a plein d'informations. Par contre, donc c'est cool. J'ai trouvé ça franchement pas mal pour un numéro du Villain Monde, j'ai trouvé cool. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau chronologie, c'est même pas la peine d'essayer de trouver une logique, parce que si on fait le point par rapport à la série Deathstroke, Team Seven et le fait qu'il y a eu 5 ans après l'apparition de Superman, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre comment ça marche.
Donc, faut commencer à être habitué chez DC maintenant.
Parce que comme il a eu je ne sais pas combien de femmes et je ne sais pas combien d'enfants qui n'ont pas du tout les âges qu'ils ont l'air d'avoir, voilà. Bon, donc si on se prend pas la tête là-dessus, c'est plutôt agréable à lire et là encore une très jolie couverture aussi voilà. Pour Deathstroke.
Pour ce qui est des mariages, c'est quand même Deathstroke. Le mec c'est un vilain, donc rien ne l'empêche de se marier alors qu'il est déjà marié dans un autre état,
vrai.
Tu sais.
C'est vrai.
C'est-à-dire le mec ne respecte rien, c'est Deathstroke quoi.
Il pourrait le faire, mais donc plutôt charismatique dans ce numéro, donc un gros check-it.
Très bien, on continue avec toi Benny qui va nous parler du Batman The Dark Knight numéro 23.3. Est-ce un énième tie-in qui ne sert à rien?
Bah écoute, oui, j'ai envie de te dire malheureusement, ouais. Donc au scénario, nous avons, et je ne le retrouve pas, au secours, comment s'appelle-t-il?
Je vais essayer de t'aider dès que je peux retrouver les crédits moi aussi.
En fait, je retrouve pas la bonne page. Voilà. John Lehman. Ah oui, en plus, j'avais oublié que c'était lui. John Lehman et
Cliff
Richard.
C'est le mec qui préparait leur émission à fond quand même.
Ouais. Non, mais John Lehman donc est au scénario et c'est pour ça que j'ai lu d'ailleurs l'épisode en question parce que je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être drôle puisque c'est à propos de Clayface. Donc je me suis dit, enfin il avait déjà écrit Clayface d'ailleurs dans Detective Comics. Mais c'était pas si mal, donc je me suis dit bon allez allons-y.
Et Cliff Richard, ouais, tu nous avais vanté son arc, hein. Tu nous avais dit qu'il était vraiment pas mal cet arc.
Il était vraiment pas mal et puis après beaucoup moins bien et là je ne le lis même plus John Lehman en ce moment sur Detective Comics. Je sais même pas du tout depuis quand j'ai pas lu un épisode de Detective Comics. Mais écoute, il y a quelques pages qui font sourire. Au fait c'est un Clayface très con qui veut absolument attirer l'attention de la Secret Society pour en faire partie, pour qu'il se fasse engager. Et il ne fait que des conneries. Par exemple, à un moment, il fait foirer un truc en pensant que ça allait aider la Secret Society, alors que la Secret Society avait fait exprès de mettre les hommes qu'il bute en place pour contrôler quelque chose, quoi. Et Clayface se fait tout foirer, donc au fait, c'est plus un gros boulet pour la Secret Society qu'autre chose. Et le mec passe son épisode à s'énerver après des gens qui le traitent d'abruti et à aller frapper, quoi. Ça fait sourire, mais c'est totalement accessoire. Je veux dire, ça n'apporte rien au personnage. Et on peut tout à fait lire le Villain's Month en se passant de cet épisode, quoi. C'est évident. Ça fait plus office d'épisode qu'on aurait en backup, quitte à le réduire, que un épisode pour lequel on va payer $4, quoi. 3 ou $4, je sais plus combien c'est.
Ça pue bien ton truc, là.
Ouais. Bah non, c'est pas terrible quoi. Puis en plus John Lehman, bah voilà, il est beaucoup plus drôle sur ah oui. Oui, voilà.
T'étais censé dire comme un poil, mais bon, c'est pas grave.
Bah non. Oui, si.
Alors, j'aime bien, c'est que la vanne sort avant l'émission. On se dit, bon, allez, on va essayer de la ressortir dans l'émission en faisant style, elle vient d'arriver. Et donc, là, c'est le pire epic fail possible. Et comme j'aurais pas le temps de monter, je vais laisser ça comme ça. Donc,
Ouais, voilà, exactement. Bah, je crois que ça va bien avec cet épisode.
Finalement, la blague sera drôle de par son échec.
Voilà. Bah, en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc,
peut-être qu'elle ne fera rire que nous, mais dans ce cas-là, tant pis. De toute façon, nous, on aura rire, c'est le principal.
Désolé, les auditeurs.
Allez, c'est comme la blague en question, c'est un gros pass et on passe à autre chose.
Eh bien, on va terminer notre semaine de review avec un dernier titre d'essai. Bruno, auras-tu enfin un titre qui vaut le coup avec ce Wonder Woman 23.1?
Ouais, c'est mon premier bail pour le Villain Months. Donc, c'est écrit par John Ostrander et dessiné par Victor Ibanez. Et on va revenir sur Cheetah, donc un personnage qu'on avait pu croiser dans les titres Justice League. Ça se passe après Forever Evil. Cheetah vient de s'enfuir du pénitencier dans lequel elle était enfermée et elle essaye de faire disparaître toutes les preuves de son passé, à savoir tous les gens qui savent qu'avant elle s'appelait Barbara Minerva. Et donc elle va rechercher ses parents et essayer de mettre un terme à leur vie pour voilà que les gens ne connaissent qu'elle qu'à travers son nom de Cheetah. Et donc on va découvrir qui elle est, d'où elle vient, comment elle a eu ses pouvoirs, comment elle a rencontré Wonder Woman. On va voir qu'elle a été mêlée en fait à une éducation via sa tante dans une sorte de secte où en fait il vouait un culte aux Amazones, donc voilà, d'où le lien un petit peu où elle s'est rapprochée pas mal avec Wonder Woman. Et alors surtout, ce numéro permet d'introduire un nouveau personnage chez DC, un personnage qui, j'espère, restera après par la suite. C'est le personnage de Mark Shaw, donc un chasseur de, enfin qui est un Marshall et qui est un Manhunter et qui, si on, voilà, c'était un ancien alias du personnage de Manhunter chez DC et qui est envoyé pour aller récupérer Cheetah. Et donc voilà, donc ça pourrait être cool de faire revenir le personnage du Manhunter dans les DC New 52. Voilà, on apprend pas mal de choses, ça fait avancer l'intrigue et bah, j'espère qu'on recroisera Cheetah et le Manhunter dans le titre Wonder Woman et que c'est pas juste un one shot comme ça. Donc voilà, pour moi c'est un bail, c'est joli en plus, donc c'est cool.
Je me rappelle plus si on l'avait annoncé dans les What's New de New 52, enfin si on l'avait teasé qu'il y avait un nouveau Manhunter. C'est possible, mais enfin voilà, il y en a
Bah,
tellement par
là, il est
semaine.
vraiment, il a pas de costume. C'est, il est envoyé parce que c'est un marshal. Il est censé aller récupérer les fugitifs. Plusieurs fois, il parle de lui comme étant un Manhunter, mais voilà, il n'y a pas encore de mythologie autour du personnage. Il n'a pas
Ouais,
de
enfin,
pouvoir ni rien.
c'est peut-être un jeu de mots, puisque les
Voilà.
marshaux. Oui, parce qu'un
C'est
marshal, des
ça.
marshaux. Les marshals aux États-Unis sont
Chasseur d'hommes.
des chasseurs d'hommes. Donc, est-ce que c'est peut-être simplement un jeu de mots? Avec John Ostrander, c'est possible aussi.
Mais voilà, il y a une bonne interaction entre les deux personnages puisque bah lui, il sait très bien qu'il est envoyé pour une mission où il risque de crever parce qu'il a pas de pouvoir et Cheetah, c'est un peu une assoiffée qui arrache le cœur des gens et donne ce sacrifice à la déesse de la chasse. Donc bon, il a un peu peur, mais voilà. Mais vous verrez dans le comics comment
Je
ça se
pense que
passe à la fin.
tu peux avoir peur, oui. Effectivement, quand tu vas chasser ce genre de créature, tu peux quand même flipper un peu ta race, oui.
Voilà, donc c'est un bail.
Ah bah, au moins on finit sur une bonne note avec DC, ce
Oui.
qui ce mois-ci n'est pas quelque chose de courant, j'ai envie de dire.
Voilà, après on n'a peut-être pas choisi les meilleurs titres à chaque fois, mais pour l'instant c'est assez moyen.
En même temps, si tu tapes pas dans les plus gros, si vraiment tu dois aller chercher les fonds de catalogue, sachant qu'en plus ils ont choisi que des gros titres pour les titres de ce Villain Months. Merde quoi, enfin je veux dire là au bout d'un moment c'est pas possible. Bah, pour moi ça reste quand même une assez grosse escroquerie. Hein. Reste la dernière semaine. Bon, c'est vrai, on n'a pas lu Swamp Thing cette semaine, mais il y
Ouais.
a de fortes chances que ce soit très bon, de toute façon.
Ouais, c'était sur Arcane en plus.
C'était sur Anton Arcane, ouais.
Il y en a plusieurs que j'aurais aimé lire aussi. Il y avait le Lex Luthor qui m'intriguait, mais j'ai pas eu le
Ouais,
temps de
il
le
était
lire.
en plus écrit par Charles Saul.
Et ouais.
Donc, mais bon voilà, on n'a pas non plus le temps de tout lire
Et
chaque
je
semaine.
pensais que ces deux-là, obligatoirement, l'un de vous deux les aurait fait, quoi.
Et
Bah finalement.
j'aurais pu les faire si honnêtement je n'avais pas eu le gros montage à faire cet après-midi. Là c'est vrai que ça a énormément réduit mon temps de lecture et j'en suis désolé d'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais que 5 comics de chroniquer cette semaine.
Bon, en même temps, à chaque fois, on se presse pour lire les trucs qui sont sortis la veille. Hein, c'est bon, hein. Une journée, même pas.
On va passer maintenant à notre partie TPB avec une
TPB!
grosse liste. On commence chez Dark Horse avec un artbook qui s'appelle Conan the Phenomenon, qui va reprendre pas mal de visuels des covers de Robert Howard, de Frank Zeta, des
Frazetta,
images de Frank Zeta. Oui, pardon,
La tête, voilà.
je lis.
Frank Zeta, c'est pas le même.
Non, non, mais je lis des trucs et je vais trop vite. Il y aura aussi des artworks venant des films. Ben voilà, c'est vraiment un bouquin sur l'ensemble de Conan à travers les images.
Oui,
Et ça
très
peut
sympa.
être très sympathique, justement,
Un bel
pour ceux
objet,
qui
pas très
aiment.
cher.
Oui, ça ne vaut que 19,99.
À savoir qu'il y a une sortie française prévue chez Hugin Mugin pour la fin d'année, mais il sera plus cher par contre.
Et qu'il y a aussi une préface de Michael Moorcock.
Ah, c'est pas mal ça aussi.
Oui, enfin, on paye toujours la traduction de toute façon.
Eh oui, et puis les frais de port.
Et oui. Enfin, quand c'est sort en français.
les frais de Franck, bien évidemment.
Voilà.
Ça faisait
Ah,
très longtemps qu'on
c'était
n'avait
lui,
pas parlé
Franck
de lui.
Zeta. Francfort.
Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé, il fallait. Passons à DC maintenant, avec la sortie en TPB maintenant, pour ceux qui n'avaient pas voulu acheter le hardcover ou qui l'avaient raté, de Secret Society of Supervillains. Ça reprend du vieux matériel sur des vilains classiques, hein, donc ça se passe dans l'ancien univers, mais ça vous permettra peut-être de les découvrir si vous ne connaissez pas les premières incarnations. On va retrouver notamment du Sinestro, Gorilla Grodd, Captain Cold et plein d'autres dans cette série qu'ils avaient dans les années 70 qui s'appelait Secret Society of Supervillains. Alors, il y a du matériel publié là-dedans, mais on a aussi d'autres titres. On a du Justice League, du Comics Cavalcade, Amazing World of DC Comics, plein d'autres choses, avec principalement en scénariste du Jerry Conway. Donc c'est plutôt pas mal. $20 pour ce TP.
Tout à fait.
Toujours chez DC, on a la sortie du troisième TP de Stormwatch, une série qui ne sort pas en français, qui contient le numéro 0 ainsi que les épisodes 13 à 18, scénarisé par Peter Milligan avec des dessins de Will Conrad.
Ça continue en VO ?
Bien sûr, oui, Stormwatch continue.
Ça a été repris par Jim Starlin, et dans laquelle on trouve un Lobo badass.
Oui, le fameux Lobo que l'on voyait à la fin de Lobo, la semaine dernière.
Voilà. Bah, le vrai, quoi.
Oui. Bah, peut-être pas du coup, mais
Verra, si, bah pour nous tous c'est le vrai. Ouais.
Oui, ça restera le vrai, mais bon. Ce TP vaut $17. Voilà, enfin 7,99. Je vous fais l'arrondi. Rappelez-vous, il y a cette loi qui est passée où on peut faire l'arrondi et ça vient à des œuvres caritatives.
Tout à fait.
C'est plutôt pas mal. Passons chez IDW maintenant. Et oui, non, mais attention, Comic City à la pointe de l'information. Et je rappelle que même si vous écoutez cette émission le samedi, nous c'est enregistré le jeudi. Donc c'était aujourd'hui pour nous. Hein. Passons chez IDW avec la sortie en hardcover deluxe de Joe Hill The Cape, la série qui avait inspiré la série télé.
Ouais. Voilà. Pas du tout.
Non, c'était la série télé d'abord et ensuite une
et
série.
Non, ça n'a rien à voir en fait. Les deux sont différents. C'est un personnage aussi avec une cape, mais c'est pas la même chose que la série télé.
Ah bah j'étais persuadé, tu vois.
Et le premier volume était sorti en français, mais là cette édition Deluxe comprend les deux saisons. Il y avait la première partie et The Cape
1969, voilà.
Voilà.
Et donc bien sûr, comme son nom l'indique, c'est du Joe Hill.
Oui, mais c'est l'histoire d'un gamin qui récupère une cape et qui devient un super héros. Ouais. Je crois, hein. Grosso modo. Hein, voilà.
Ah oui, non, alors moi j'étais persuadé que c'était en rapport avec la série télé.
C'est pas en rapport avec la série télé. J'ai pas lu encore le premier TP, mais il paraît que c'est très bien, The Cape.
Ouais, non, on avait dit beaucoup de bien. Bon, en même temps, il est pas forcément très objectif sur Joe Hill, on a tous nos auteurs favoris, hein, de toute façon. Voilà. Ah oui, non, moi j'étais persuadé que c'était cette série qui était tellement bonne qu'elle s'est arrêtée au bout du 7e épisode. Ça vaut donc $40, c'est donc du hardcover, hein, évidemment. Toujours chez IDW, deux produits Star Trek qui sortent. Le premier, c'est Best of Klingons, c'est du TP, ça vaut $25 et ça va reprendre la mini-série en 6 parties qui s'appelait Klingons Blood Will Tell, mais surtout une mini-série, enfin un arc en 4 parties à l'époque où Star Trek était publié chez DC, un arc de la série originale qui est très très dur à trouver aujourd'hui. Voilà, vous avez ces deux histoires pour $25, donc ça fait l'équivalent de 10 épisodes, c'est plutôt pas mal. Et dans le côté produit beaucoup plus rare, nous avons les Star Trek Newspaper Strip Hardcover Volume 2 qui va reprendre du matériel très 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 difficile à trouver aujourd'hui puisque ce sont les strips qui paraissaient dans les années 80. On va reprendre les 10 missions complètes qui se sont déroulées entre le 26 octobre 1981 et le 3 décembre 1983. Donc publié tous les dimanches dans les journaux à l'époque. On a entre autres dans les scénaristes du Jerry Conway encore, hein, mais dans les dessins on a aussi du Ernie Colonne par exemple. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, je ne vais pas vous faire la liste maintenant. C'est un produit assez dur à trouver, enfin, c'est une grosse collection, ça vaut $50, c'est du hardcover, c'est un peu cher, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 rare.
Ernie Colonne qui a des problèmes de transit, il paraît.
Là, c'était plus miteux que moi encore. Là, c'est...
Bon, pour la peine, c'était tellement mauvais qu'on arrête la liste de TPB ici. Moi, je me casse. Je plaisante.
C'était une note d'espoir pour moi. Mais...
Salaud. On continue avec Image. Image qui sort un graphic novel cette semaine. Un graphic novel d'Howard Chaykin qui s'appelle Century West. Je l'ai acheté, je l'ai juste feuilleté, je ne l'ai pas encore lu.
Ah bon
Oui, c'est voilà du... Du Howard Chaykin à l'époque du Far West.
T'achètes du Howard Chaykin? Je croyais que tu détestais Howard Chaykin.
Ah non, je déteste pas Howard Chaykin. Son trait est très particulier, ça dépend des projets en fait. Il y a des projets sur lesquels.
Ça... Alors, je sais plus
ah non,
qui,
c'est
je
pas
sais
moi qui
déteste.
Qui déteste
Howard Chaykin.
Bon, non, c'est pas moi.
Moi j'aime bien.
Pas moi. Ça dépend des choses, moi. Et là, sur du Far West, je trouve que ça lui va très bien. Alors, ça vaut vraiment pas cher, hein. Ça vaut que $8. C'est un petit graphic novel d'une soixantaine de pages.
Ouais, c'est un TP tout fin.
Mais bon, c'est un petit graphic novel de Ward Shaikin, un monsieur qui choisit ses projets et qui peut, justement.
Ouais, il fait beaucoup de trucs en ce moment, je sens qu'il va prendre sa retraite bientôt.
Oh non, quand même. Continuons avec un autre produit chez Image qui sort à 10$ puisque c'est un premier TP, s'appelle Five Ghosts, Haunting of Fabian Gray avec Frank J. Barbier au scénario et Chris Mooneyham au dessin. Tu n'avais pas lu ça, Five Ghosts, Bruno ?
Si, c'est très très bien, c'est vraiment à lire et sachant qu'il va y avoir après un ongoing puisque ça a tellement bien marché qu'ils vont faire une suite.
C'est pour ça qu'ils le sortent à ce prix d'appel de 10$ pour.
C'était quoi cher, grosso modo ?
C'est un mec qui est capable de prendre les pouvoirs de 5 figures littéraires, le vampire, le sorcier, l'archer.
C'est cool.
Et c'est du pulp, c'est très beau graphiquement. Et non, c'est un titre à tester.
Et oui, le numéro 6, hein, qui donc la suite, parce que c'est la mini en 5 parties qui est publiée dans ce TPB, sort le mois prochain. Donc c'est vraiment le moment pour rattraper le retard.
Tout à fait.
Continuons avec une autre mini-série de Image, c'est Lost Vegas qui sort en TPB, une mini de Jim McCann dessinée par Janet Lee. C'est au prix de 15$, ça reprend les 4 épisodes de la mini. Tu l'avais lu aussi.
J'ai lu le premier, j'avais rien compris et j'ai pas lu la suite.
À moitié Star Wars, à moitié Ocean's Eleven. Voilà.
Et surtout très chiant, j'avais l'impression.
Un autre projet assez étonnant cette fois-ci, c'est Walking Dead Spanish Language Edition. Volume 1.
Ils ça ne sort que maintenant.
Non, mais en fait, je l'ai sélectionné cette semaine. Pourquoi ? Bon, ça sort au prix de 15$. Ça reprend le contenu du premier TPB, c'est-à-dire les 6 premiers épisodes. Pourquoi je le précise ? Parce que pour les lecteurs américains, il y a beaucoup. On sait très bien qu'aux États-Unis, l'espagnol est la deuxième langue en réalité. Et ça ne sort que maintenant en langue espagnole. En fait, si les gens voulaient le lire en espagnol, eh bien, ils devaient se procurer des versions étrangères.
Étonnant.
Je trouve ça étonnant de la part de Kirkman, qui est quand même un, et c'est pas un gros mot que de le dire, qui est un gros capitaliste. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas pensé avant, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Donc, les Espagnols qui ne parleraient pas un mot d'anglais et qui se retrouvent quand même aux États-Unis vont peut-être pouvoir enfin découvrir ce phénomène qui est The Walking Dead. Je pense qu'ils ont des choses plus intéressantes à faire, mais bon, voilà. Passons à Marvel maintenant avec Inhumans, un TPB qui va reprendre les origines des Inhumains avec à l'intérieur Fantastic Four 36, 38, 41, 47, 54, 62 à 65 et Annual 5, ainsi que des petits morceaux du numéro 48, 50, 52, 55 à 61 et du matériel de Thor 146 à 152. Bien sûr, ce sont les premières séries, hein, donc ça date des années 60. C'est du Stan Lee et du Jack Kirby. Ça vaut 40$, hein, vous voyez, il y a énormément de choses à l'intérieur. Si vous voulez vraiment voir les débuts des Inhumains dans l'univers Marvel. Là.
J'ai l'impression que les Inhumains vont revenir d'actualité.
Oh oui, c'est vrai, parce que je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Inhumanity, bientôt.
Oui, c'est vrai.
Mais je crois que c'est encore une rumeur, hein. Je suis pas certain. Continuons avec encore du vieux Iron Man Epic Collection, TPB Enemy Within, avec à l'intérieur Iron Man 158 à 177, ainsi que l'Annual 5, ça vaut aussi 40$, même si c'est du souple, hein. Vous voyez, il y a quand même une grosse collection de numéros dedans, il y en a presque 20. Il y en a 20 en fait, puisqu'il y a un double, donc ça fait l'équivalent de 20 épisodes. Une grande époque hein, d'Iron Man à ce moment-là.
Ben, ça correspond à quel scénariste, du coup, quel
dessinateur? Il y a plusieurs scénaristes. Au niveau du dessin, on a plutôt du Steve Lytle. C'est l'époque où James Rhodes va commencer à devenir Iron Man.
Ah, mais c'est Denis O'Neill au scénario, alors?
Ouais, mais il n'y a pas que lui, en fait.
D'accord.
Il y a plusieurs personnes. On va croiser
avec Obadiah Stane et compagnie. Là.
Exactement, voilà. On va croiser du Captain America, du Moon Knight, du Black Panther, du Machine Man, du Nick Fury, enfin plein d'autres mondes encore.
Je sais pas si dans ces épisodes, parce que ça dure un moment, mais il va aussi sur la côte ouest des États-Unis s'installer avec ses potes.
Je sais plus si c'est pas après. Je sais plus. Là, ça remonte un peu à loin. Mais en tout cas, c'est vraiment par là et c'est vraiment une très très bonne époque, ça encore de Iron Man. Hmm. Toujours dans le vieux, parce que c'est vrai que Marvel sort énormément de vieilles choses hein, cette semaine. Les autres trucs qui sortent déjà en français, c'est pour ça qu'on ne vous les répète pas. Marvel Masterworks Daredevil Hardcover Volume 7 sort au prix de 70$. Donc c'est la collection Masterworks, hein, collection très luxueuse, c'est pour ça que c'est assez cher. Ça reprend les épisodes 64 à 74 de la première série, ainsi que Iron Man 35-36, puisqu'il y avait une petite apparition de Daredevil dans ces deux épisodes. Rien à dire là-dessus.
Rien à dire.
C'est du Gene Colan au dessin.
C'est qui ? Non, je rigole.
Oh putain, j'ai eu peur de te... Je me voyais en train de te couper de la conversation, tu sais. passons maintenant à Onipress. Onipress qui sort son cinquième TP de Sixth Gun, la série de Cullen Bunn, dessinée par Brian Hurt, au prix de $20. Pour ceux qui suivent cette série en TPB, comme moi.
D'accord. Faut pas confondre Six Guns avec Five Weapons, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent en ce moment.
Ouais, sauf que bon, Six Gun a quand même pas mal de bouteilles maintenant. Et toujours chez Oni, quelque chose qui va faire énormément plaisir à Sam, c'est la sortie du deuxième hardcover de Stumptown, la série de Greg Rucka et Matthew Southworth. C'est au prix de $30. Très très bonne série que Stumptown.
Ça m'avait vraiment assis par terre, hein, je dirais. Vraiment, c'était très très fort. Ouais.
Et enfin, pour terminer cette section TPB très longue, puisqu'il y avait énormément de sorties, eh bien, quelque chose dont on a parlé très récemment, c'est Valiant qui sort déjà, oh. Et oui, le Harbinger Wars TPB. Ça sort au prix de $15. C'est tout chaud, puisque commencent juste là les répercussions cette semaine de Harbinger Wars, avec notamment Bloodshot qui change de titre.
Bloodshot, voilà, and the Core of the Captain Flame, bien sûr, je sais plus comment ça s'appelle.
Of the Doom of the Apocalypse. non, ça s'appelle Bloodshot and the Hardcore.
Voilà, d'accord, exactement. Tout simplement.
Hardcore.
C'est hard, mais ce hard est un acronyme, en fait.
Ouais, d'accord. Et avec Core comme le Nova Core.
Comme le Green Lantern Core ou le Nova Core, exactement. Voilà. Donc ça reprend les Harbinger Wars 1 à 4, scénarisés par Joshua Dysart, avec des dessins de Clayton Henry et des covers de Clayton Crane. On a aussi du Dwayne Szerzinski qui l'accompagne au scénario.
Ouais.
Donc non, c'est franchement, là, en termes de sortie TPB, c'est ultra rapide. Hein.
Ah bah ça, ouais.
Ça s'est terminé le mois dernier, je crois.
Oui, bah, ils veulent vraiment capitaliser sur le buzz qu'ils ont actuellement, et ils ont bien raison, hein. Il faut vraiment pas qu'ils perdent la main, parce que.
Et ils font des bonnes ventes en TP en plus, donc c'est plutôt cool pour eux de les sortir comme ça rapidement.
Ouais. Premier pas vers un gros bouleversement dans l'univers de Valiant que ce Harbinger Wars, qui commence déjà à mettre les choses en place pour le futur crossover de fin d'année.
Je sais pas s'il y a des éditeurs qui ont déjà fait ça, mais moi je serais même tenté de sortir le TPB. Avant la sortie du dernier épisode en single, tu vois. Juste histoire d'avoir un épisode encore inédit dans le TP au moment où ça sort.
Ça pourrait se faire, effectivement, ça pourrait se faire.
C'est un peu bâtard, mais bon.
C'est un petit peu le truc de bâtard.
Mais on a déjà eu des TP qui sortaient le même jour que le dernier single, par contre. Ça, ça s'est déjà vu.
Ouais, par exemple, ouais. Voilà.
Le sortir avant, par contre...
Ce serait intéressant de voir si les gens, quand même, résistent pas et achètent...
Ce serait intéressant, mais du coup, si ça se reproduit, les gens du coup iront vers le TP et n'achèteront plus les ongoing. Enfin, ouais, les singles.
Ah,
et c'est casse-gueule, parce que sans single, ta boîte coule. Hein.
Ouais, non, mais faut voir.
Les boîtes qui ne font que des graphic novels ou des TP, il n'y en a pas légion et elles sortent pas grand-chose et elles vivotent plutôt qu'autre chose, quoi.
Ouais.
Enfin voilà, c'est tout pour cette section TP. Il y a quand même du bon cette semaine, ça rattrape un peu les comics relativement moyen qu'on avait cette semaine. On a eu quand même une bonne dose de check-it.
Heureusement, il y a Infinity.
Oh oui, bah, enfin, en même temps, on n'a pas eu grand-chose chez Marvel, on n'avait que 3.
Que je lirai, je pense. Que je lirai, non, mais je le lirai en toute fin, je pense. Je reprendrai le truc d'un bloc.
Je le lirai quand ils sortiront les albums reliés chez Panini.
Alors, rendez-vous l'année prochaine.
Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la fin du Villain Months. Enfin. Enfin, j'espère que je reprends vite fait le calendrier parce que j'ai peur.
C'est la fin.
J'ai eu peur que ce soit un mois à 5 mercredis. Non, c'est un mois à seulement 4 mercredis et c'est bien assez. dit le mec qui est complètement blasé, qui n'en peut plus.
Oui, bah non, parce que ça n'a rien apporté. En fait, ça n'a absolument pas avancé depuis le moment où ils sont arrivés, quoi.
Ouais, c'est aussi peut-être mon état de fatigue avancée qui parle, hein, sachant que c'est quand même la troisième
émission
de la semaine.
Si ça se trouve, en septembre de l'année prochaine, il y aura le Heroes Month.
Ah putain, il faut déjà penser à ce qui va se passer le septembre prochain, mais j'espère que ce sera mieux que ça. Honnêtement, pour le moment, je préférais quand même le Zero Month.
Moi aussi, hein. Franchement, ouais. Carrément.
Pareil.
Parce qu'on avait encore des espoirs que DC pouvait relever le truc. Maintenant,
non, puis il y avait quelques épisodes intéressants.
Oui, clairement.
Moult.
Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine où ça va être épique et je ne promets pas d'être dans un très bel état la semaine prochaine puisque j'en serai à ma quatrième émission au moment où on enregistrera ce Comics Weekly. Quatrième émission dans la semaine, un podcast par soir, ça va commencer à être très très dur.
Ouais, que la force saute avec toi, Steve.
Alors que bon, vous, il y en a certains, vous les ferez pas, hein. C'est genre un sur deux.
C'est vrai, c'est vrai.
Bande de... bande de chanceux.
Chanceux, oui, c'est vrai.
Bande de chanceux. Et comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Mail auquel nous répondrons dans l'émission Weekly News qui sort, je le rappelle, tous les mardis. Et puis, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site, sur iTunes, bien évidemment. iTunes, où c'est vrai, j'oublie souvent de le dire, mais n'hésitez pas à nous laisser une 5 étoiles sur iTunes. Hein. Insultez-nous, mais mettez-nous 5 étoiles. bah quoi? Ce qui compte, c'est le nombre d'étoiles.
Les étoiles.
C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas dit, mais n'hésitez pas à voter pour nous aussi sur iTunes. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Ça nous aide beaucoup. Et enfin, si vous voulez nous aider actuellement, vous pouvez en allant voter sur les Golden Blog Awards. Vous avez le petit lien sur le site que Bruno a gentiment rajouté, puisque je n'avais pas le temps de le faire. Donc, merci à toi, Bruno.
Sur la page
d'accueil. Voilà, vous pouvez voter une fois par jour. Et si vous pouvez voter pour nous, ça nous fait très plaisir. Peut-être que nous gagnerons ces Golden Blog Awards et deviendrons une multinationale qui prendront le monde.
Célèbre.
Une multinationale qui prendront le monde, de toute façon, c'est sûr que...
Oui, qui prendront le contrôle du monde, j'ai oublié un mot. Bon, ça va.
Non, une multinationale qui prendront
le Golden Blog Award de l'orthographe, donc ça va.
C'est parce que nous deviendrons une multinationale et sous-entendu nous prendrons le contrôle du monde. Mais
fuck that.
Voilà, je me rattrape comme je peux aux branches qu'il reste. Voilà, bon allez, on se quitte, on se dit à la semaine prochaine et comme d'habitude, lisez plein de romans. Non, pardon, de comics, excusez-moi.
Oui.
C'est la vanne foireuse pour terminer, hein. Vraiment, c'est petit.
Vive les comics.
Comme moi. À la semaine prochaine.
Ciao à tous.
Je dirais même plus rien. And